Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 45, Daf Mem He. Bonne écoute et bon limoud.
Vehatnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah plus loin, Daf Nunbet Amudbet, Rabbi Eliezer Omer, celui qui est sorti de son territoire, c'est-à-dire du périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence, Shtaim, s'il se trouve à 2 coudées de la limite à ne pas franchir, Yikanes, il pourra rentrer. Shalosh, mais s'il se trouve à 3 coudées de cette limite, lo Yikanes, il n'aura pas le droit de rentrer chez lui. My love, n'est-ce pas que c'est ainsi qu'il faut comprendre cet enseignement de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer l'étamé, Rabbi Eliezer suit sa propre opinion, de Amar qui dit, Vehu be'em ta'am, lorsqu'il lui est accordé un périmètre de 4 coudées, la personne se trouve au milieu de ce périmètre. Autrement dit, il n'a pas le choix de décider dans quel sens il aura ses 4 coudées. Par conséquent, Arba Amot de Havule Rabanan, et le nouveau territoire de 4 coudées que lui ont accordé les Chachamim, Keman de Mibal An Damu, sont considérés comme chevauchant son territoire d'origine. Et ce, même s'ils sont juxtaposés. Veka Amar, et là-dessus, Rabbi Eliezer dit, Yikanes, il peut rentrer chez lui. Alma, donc, nous pouvons déduire de là, Havla'at Trumin Miltahi, lorsque deux territoires se chevauchent, ceci a une importance pour lui permettre de rentrer chez lui, même s'il n'y était pas dans le second, à l'entrée du Shabbat. Selon le même principe, dans le cas de notre Mishnah, où les Chachamim ont accordé à cette personne un nouveau territoire de 2000 coudées, si celui-ci chevauche son territoire d'origine, il devrait pouvoir rentrer chez lui. Amarle, Rabba Barbarchana le Abaye, Rabba Barbarchana a posé la question suivante à Abaye, ou mi de Rabbi Eliezer, Kamut Vatle le Mar, est-ce que de l'opinion de Rabbi Eliezer, tu poses une question à Rabba? Or, les Chachamim sont en désaccord avec lui. Amarle, Abaye lui a répondu, in oui, je pose une question à Rabba à partir de l'opinion de Rabbi Eliezer. De Shami Ali Mineh de Mar, car j'ai entendu de mon maître, Rabba, Adkan l'opligé Rabbanan Aleh de Rabbi Eliezer, jusque-là, les Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Eliezer pour dire que même si les territoires se chevauchent, il ne peut pas rentrer chez lui. Donc même s'il se trouve à une coudée de son territoire d'origine, il ne peut pas rentrer chez lui. Et là, les Dabar Rechout, c'est uniquement s'il est sorti de son territoire d'origine pour une raison facultative, soit par inadvertance, soit même volontairement. Aval les Dvar Mitzvah. Mais s'il est sorti de son territoire d'origine pour accomplir une mitzvah, comme le cas de notre Mishnah, modulé, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que si son nouveau territoire que les Chachamim lui ont accordé chevauche son territoire d'origine, il pourra même rentrer chez lui. Cependant, comme le précise le Maharsha, c'est uniquement si les territoires se chevauchent réellement, mais si ils sont simplement juxtaposés, il ne pourra pas rentrer chez lui. Car la raison pour laquelle il lui est permis de rentrer chez lui, c'est comme nous l'avons expliqué précédemment, puisque en allant jusqu'au bout de son nouveau territoire, il se trouve dans son territoire d'origine, il y a donc déjà pénétré, nous lui accordons de nouveau son territoire d'origine et il pourra donc rentrer chez lui. Mais si ces territoires se juxtaposent uniquement, finalement, il ne peut pas pénétrer dans son territoire d'origine sans franchir la limite de 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve. Dans ce cas, il ne pourra pas rentrer chez lui. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Eruvin Daf Memdalet. Nous commençons le shiur de Maseret Eruvin Daf Memhe à la 9e ligne du haut de la page aux deux points. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah que celui qui sort de son territoire, qui est un périmètre de 2000 coudées autour de son lieu de résidence avec une permission spéciale, par exemple, pour témoigner qu'il a aperçu la nouvelle lune, ou pour défendre une ville assiégée, il peut circuler dans un périmètre de 2000 coudées autour de l'endroit où il se trouve, même s'il a été arrêté en chemin, parce que son intervention n'est plus nécessaire. La Gemara reprend le passage de la fin de la Mishnah qui dit V'chol hayotzin lehatzil chozrim limkoman, et tous ceux qui sortent pour défendre une ville assiégée peuvent retourner à leur place. En l'agmar demande, va filoutouva, et même beaucoup, s'il doit couvrir une plus grande distance que 2000 coudées, Veha Amar Dresha, pourtant tu dis au début de la Mishnah, Alpay Mama Betulo, il peut parcourir une distance de 2000 coudées autour de l'endroit où il se trouve, et pas plus. La Gemara répond, Amar Rav Yehuda Amar Rav, la Mishnah ne veut pas dire qu'il peut retourner chez lui, mais plutôt chez Chozrin Bichlezaïn Limkoman, qu'ils peuvent rentrer à leur endroit, c'est-à-dire là où ils désirent passer le reste du Shabbat, en portant leurs armes. Il n'est pas nécessaire de les déposer sur place, et ce pour la raison que nous verrons. La Gemara demande, Umay Kushia, quelle question y a-t-il à partir du début de la Mishnah? Dilma Lehatzil Shani, peut-être que lorsqu'une personne va pour défendre une ville assiégée, c'est différent. C'est-à-dire, il est possible que le début de la Mishnah parle de ceux qui partent pour une raison particulière, comme celui qui voit témoigner avoir aperçu la nouvelle lune ou sauvé d'un danger. Dans ce cas, il ne peut circuler que dans un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve. Mais s'il part défendre une ville assiégée, il peut même rentrer chez lui. Finalement, il n'y a pas de contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Nous n'avons pas besoin de cette réponse de Rav Yehuda au nom de Rav. Alegma répond, et là, Ikashia, si réellement il y a une question, Hakashia, c'est la question suivante. Detnan, car elle est enseignée dans une Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah Daf Kaf Gimel Amud Bet, concernant les témoins qui se rendent le Shabbat au tribunal suprême pour témoigner qu'ils ont aperçu la nouvelle lune. La Mishnah dit, Barishona, au début, Lo Hayu Zazim Misham Kolayom Kulo, ils ne bougeaient pas de l'endroit où ils sont arrivés toute la journée, comme ceux qui sont sortis de leur territoire par contrainte, et ils sont astreints à un périmètre de 4 coudées, ou s'ils se trouvent dans un endroit clôturé, ils peuvent circuler uniquement dans toute cette enceinte. Hitkin Rabban Gamliel Azakem, Rabban Gamliel l'Ancien a institué, chez Eshlahen Alpaim Amal Cholruar, qu'ils ont un périmètre de 2000 coudées de chaque côté, autrement dit, ils pourront circuler librement dans la ville où ils sont arrivés et dans un rayon de 2000 coudées autour de celle-ci. Velo Elo Bilvadamru, et ils n'ont pas dit cela uniquement pour eux, c'est-à-dire pour les témoins. Ela Afilu Chachama Haba'a Lialed, mais même une sage-femme qui vient participer à un accouchement, Vehaba Leatzil Min Hagayis, et celui qui vient défendre d'une armée envahissante, ou Min Hanahar, ou bien ceux qui viennent sauver les gens d'un fleuve en crue, ou min hamapolet, ou d'un éboulement qui s'est écroulé sur eux, ou min hadleka, ou bien d'un incendie. Tout cela, harehen kean shahir, ils ont le même statut que les habitants de la ville dans laquelle ils sont arrivés, veyesh lahen alpaimama le cholruar, ils ont un rayon de 2000 coudées de chaque côté, ils peuvent donc circuler librement dans cette ville où ils sont arrivés, et dans un rayon de 2000 coudées tout autour. Cette Mishnah dit donc clairement que ceux qui viennent défendre d'une armée envahissante ne peuvent circuler que dans un rayon de 2000 coudées, vetulo, et pas plus. Alors la question se pose, Ve'ha'amar, pourtant tu dis dans notre Mishnah, Kol hayotzin le'atzil, chozrin l'imkuman, tous ceux qui sortent de leur territoire pour défendre une ville assiégée peuvent retourner à leur endroit, c'est-à-dire à leur ville d'origine, à Filutova, même s'ils doivent parcourir pour cela une distance plus grande que 2000 coudées. Alors là-dessus, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda répond au nom de Rav, la Mishnah nous enseigne, non pas qu'ils peuvent parcourir une distance de plus de 2000 coudées, mais plutôt, chez Chozrin Bichlezaïn Limkoman, qu'ils peuvent rentrer avec leurs armes à leur endroit. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'obligation de laisser leurs armes sur place, mais ils peuvent les ramener à l'endroit où ils désirent passer le reste du Shabbat, que de Tania, comme il est enseigné dans une Braïta. Barishona, au début, ceux qui partaient défendre une ville assiégée, Hayu Manichin Klezeinan Bebait Hasamuch Lechoma, ils laissaient leurs armes dans la maison proche de la muraille, c'est-à-dire dans la première maison qu'ils rencontraient. Pa'amachat Hikiru Bahen Oivim, une fois lorsqu'ils sont retournés d'une bataille, les ennemis les ont remarqués, ils ont aperçu qu'ils déposaient leurs armes dans la première maison proche de la muraille, Veradfu Acharehem, et ils les ont poursuivis, Benichnesu Litol Klezeinan, et ils sont retournés dans cette maison pour récupérer leurs armes, Venichnesu Oivim Acharehem, et les ennemis sont rentrés après eux dans cette maison, Darku Zeedze, ils se sont bousculés pour récupérer rapidement leurs armes, Behargu Zeedze Yoter Mimashi Hargu Oivim, ils se sont entretués encore plus que les ennemis eux-mêmes en ont tué. Beota Shaa Itkilu, à ce moment, les Chachamim ont institué, chez Yehu Chozrin Limkoman Bechlezeinan, que chacun rentre à son endroit, à l'endroit où ils désirent passer le reste du Shabbat, en portant leurs armes. c'est-à-dire il n'était plus nécessaire de les déposer dans la première maison qu'ils rencontraient, mais ils pouvaient les ramener chez eux, et ce pour éviter ces bousculades lorsqu'ils doivent à nouveau récupérer leurs armes. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, la Kashia, il n'y a pas de contradiction entre notre Mishnah et celle de Rosh Hashanah. Il propose une autre réponse, il dit « Kan, dans la Mishnah, dans Maseret Rosh Hashanah, Shenitzru Yisrael et Tumot Haolam, parle d'un cas où ce sont les Israël qui ont gagné les Goyim. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de se sauver, ils doivent donc rester sur place dans la ville où ils se trouvent. Ils auront tout de même un périmètre de 2000 coudées. Kan, ici, dans notre Mishnah, Shenitzru Umot Haolam et Atzmam, parle d'un cas où les Goyim se sont gagnés eux-mêmes. La Gemara s'exprime ainsi pour éviter de parler d'un malheur sur les Bnei Israël. En tout cas, donc, notre Mishnah parle d'un cas où ce sont les Goyim qui ont gagné. Par conséquent, les perdants doivent se sauver et ils peuvent donc même rentrer chez eux. Ils ne sont pas limités à un périmètre de 2000 coudées. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Nochrim Shetzaru al Aerot Israël, des Goyim qui ont assiégé une ville Israël, En Yotzin Alehen Bichlezeinam, il est interdit de sortir les combattre avec des armes, et ce, même en semaine, car il est interdit de se mettre inutilement en danger. Ve'en mechalelin alehen et ha-shabbat, il est interdit aussi de transgresser le Shabbat pour les sauver, car nous considérons qu'ils ne sont pas en danger. Tanya Namiachi, il est enseigné ainsi aussi dans une braïta, Nochim Shetzaru, etc., des goyim qui ont assiégé une ville, Israël, il est interdit de les combattre avec des armes, car il est interdit de se mettre inutilement en danger. Il est interdit aussi de transgresser le Shabbat pour les sauver, car nous considérons qu'ils ne sont pas en danger. Bamed varim amurim, quand ces choses sont dites, keshebaou aliske mamon, c'est lorsqu'ils ont assiégé la ville pour réclamer de l'argent. Aval baou aliske nefashot, mais s'ils ont assiégé cette ville pour une question de vie, c'est-à-dire qu'ils veulent massacrer ses habitants, yotzin alehem bichlezeinam, il faut sortir les combattre avec leurs armes, car à ce moment, ils sont en danger et ils doivent se défendre. Et il faut même transgresser le Shabbat pour les défendre ou les sauver. Et lorsqu'il s'agit d'une ville proche de la frontière, même si les Goyim n'ont pas assiégé cette ville pour une question de vie, c'est-à-dire pour massacrer ses habitants, et là, Aliske Teven Bekash, mais uniquement pour réclamer de la paille, Yotzin alehen bichlezeinam, il faut sortir les combattre avec des armes, ou mechallin alehen et ha-shabbat, et on transgresse même le Shabbat pour les sauver ou les défendre. Car s'ils arrivaient à conquérir cette ville, ils s'ouvriraient la voie pour envahir tout Eretz Israël. Voir le Merom Esadé, voir cependant aussi le Chazé David sur la Tosefta Perek Gimel Halachahé. Amar Rav Yosef Bar Manyumi, Amar Rav Nachman, ou Bavel, et certaines villes dans le pays de Bavel, Keir Hasmucha Lesfardamia, sont comparées à une ville proche de la frontière qu'il faut défendre à tout prix, même le Shabbat, s'ils sont assiégés par une armée d'envahisseurs. Betirguma, on a expliqué, Nehardea, qu'il s'agit de la ville de Nehardea, qui d'une part était proche du territoire habité par les Goyim, et d'autre part, elle était proche du territoire habité par les Israël. Par conséquent, s'il était conquise, tout le territoire habité par les Israël pourrait être envahi. Darash Rabbi Dostai de Minbiri, Rabbi Dostai de la ville de Biri a exposé dans un discours, Maïdichtiv, que veut dire le pasouk dans Shmuel Aleph, Perek Kav Gimel, Vayagidu le David les morts, et ils ont raconté à David en disant, Hine Pelishtim Nilchamim Bekeila, les Philistins font la guerre avec la ville de Keila, Vehema Shossim et Agranot, et il pille les granges. Il répond, Tana, il est enseigné dans une braïta, pour expliquer ce pasouk, Keila ir hasmucha l'esparaïta, Keila était une ville proche de la frontière, Behem lobaou ela aliske teven bekash, et les Philistins ne sont venus que réclamer de la paille. Dirtiv, comme le pasouk dit, Vehema shosim et agranot, et il pille les granges. Urtiv, et là-dessus, le pasouk dit, Vaishal David bashem les morts, et David a posé la question à Hachem en disant, il l'a fait en se présentant devant un Kohen Gadol qui portait le Choshen. Il s'est donc adressé à l'Esprit Divin. Et la question était, Ha'elech vehiketi bapelishtim ha'ele, puis-je aller pour frapper, combattre ces Philistins? Vayomer Hachem el David. Hachem a répondu à David, Il l'a fait par le moyen des lettres gravées sur les pierres du Rochen qui se sont éclairées par l'Esprit divin. L'er vehikita bapelishtim va frapper, combattre ces Philistins, vehoshata et Keila, et tu délivreras la ville de Keila. À la suite de cela, David leur a effectivement fait la guerre et a délivré la ville de Keila. Nous voyons donc que bien qu'il ne s'agissait que de pillage de grange, apparemment aucune vie n'était en danger, quand même David a mis sa vie en danger pour leur faire la guerre. C'est forcément parce que c'était une ville proche de la frontière. Comme nous l'avons dit précédemment, c'était donc une question de danger, et c'est pour cela que David est parti en guerre pour les délivrer. Puisque nous considérons cette situation comme une situation de danger, nous pouvons déduire de là qu'il est même permis de transgresser le Shabbat pour délivrer une ville dans cette situation, voir le Meromessadeh. La Gemara demande, Maïkamibayale, quelle est la question que s'est posée David lorsqu'il a posé la question à Kadosh Baruch Hu? Il est ma, si tu veux me dire, Isharé, Yassour, est-ce qu'il est permis de faire la guerre aux Philistins ou c'est interdit? Car cette histoire s'est passée un Shabbat. La question était donc, est-il permis de transgresser le Shabbat pour délivrer la ville de Keïla? Hare Beddin Shel Shmuel Haramati Kayam. Pourtant, le tribunal de Shmuel existait encore. Autrement dit, une question de Halakha ne se pose pas à Akadosh Baruch Hu par le moyen du Choshen, comme nous l'avons expliqué, mais plutôt, elle doit se poser au tribunal. Car le Pasuk dit, Lo Bashamayim Hi, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Par conséquent, une question de Halakha ne peut se régler que sur terre. Et là, plutôt, la question qu'il s'est posée, Imatzlach Ilomatzlach, réussira-t-il à combattre les Philistins ou non? C'est donc une question de prophétie qui se résout effectivement en s'adressant à Hachem par l'intermédiaire du Hoshem. L'Agma a conclu, « Dekanami, nous pouvons effectivement déduire que c'était cela la question de David Ameler, dire-t-il, car le Pasuk dit, en rapportant la réponse de Hachem, « L'er vehikita bapelishtim vehoshata et keila, va combattre les Philistins et tu délivreras la ville de Keïla. » Si la question était uniquement « A-t-il le droit d'aller combattre les Philistins ou non ?» Hachem n'aurait pas ajouté dans sa réponse qu'il réussirait à les délivrer. Forcément, sa question était justement « Est-ce qu'il réussirait à les délivrer ou non ?» Et donc, Akadosh Baruch Hu a donné la réponse qu'il réussirait à les délivrer. Nouvelle Mishnah, « Mishéachav Baderer, celui qui s'est assis pour se reposer alors qu'il était en chemin un vendredi, et le Shabbat est rentré, Ve'amad, et lorsqu'il s'est levé, Ve'ra'a, il a vu, Harehu Samuch La'ir, qu'il est proche d'une ville. Ho'il Velo Haita Kavanato Lekach, puisqu'il n'a pas eu l'intention d'établir sa résidence dans la ville, car il ne savait pas qu'il se trouvait proche de celle-ci, Lo'ikanes, il ne pourra pas rentrer dans cette ville pour se considérer comme étant un de ses habitants et circuler dans un rayon de 2000 coudées autour de celle-ci. Plutôt, il pourra circuler dans un rayon de 2000 coudées autour de l'endroit où il se trouvait à l'endroit du Shabbat. Nous noterons cependant que s'il avait eu l'intention d'établir sa résidence dans cette ville, puisqu'il était en chemin, il lui est possible de décider d'établir sa résidence dans cette ville ou dans tout autre endroit qui se trouve dans un rayon de 2000 coudées de l'endroit où il se trouve à l'entrée du Shabbat, et ce, même s'il ne se rend pas sur place. Rabbi Yehuda Omer, Yikanes, même dans le cas où il n'a pas eu l'intention d'établir sa résidence dans la ville, il pourra quand même rentrer dans la ville pour se considérer comme étant un de ses habitants et circuler dans un rayon de 2000 coudées autour de la ville. Et ce, parce que nous sommes persuadés que s'il savait qu'il se trouvait proche de la ville, il aurait choisi d'établir sa résidence dans cette ville. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Haya, il y a eu une histoire, Venichnas Rabbi Tarfon Belo Mitkaven, Rabbi Tarfon est rentré dans une ville dont il se trouvait proche à l'entrée du Shabbat, et il s'est permis donc de circuler dans celle-ci et dans un rayon de 2000 coudées autour de celle-ci, bien qu'il n'ait pas eu l'intention d'y établir sa résidence, car à l'entrée du Shabbat, il ne savait même pas qu'il était proche de cette ville. La Gemara dit là-dessus, Tania, il est enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda, Maase Berabbi Tarfon, il y a une histoire avec Rabbi Tarfon, Shehaya Mehaler Baderech, qui était en chemin, Vechashchalo, et la nuit est tombée, donc le Shabbat est rentré, Velan Chutzlaïr, et il a passé la nuit en dehors de la ville. Les Shacharit, au matin, Metsaouhu Roe Bakar, des bovins l'ont rencontré. Amroulo, ils lui ont dit, Rebi, notre maître, Hare Haïr Lefanecha, Voici que la ville se trouve devant toi, c'est-à-dire tu te trouves dans un rayon de 2000 coudées de la ville. Hikanes, tu peux donc y rentrer. Nichnas, il est rentré dans cette ville, Veyashav bebet hamidrash, et il s'est assis dans le bet hamidrash, Vedarash kolayom kulo, et il a donné des discours toute la journée. Nous voyons d'ici que bien qu'il n'avait pas une intention d'établir sa résidence dans la ville, car apparemment il ne savait pas qu'il se trouvait proche d'elle, il s'est appuyé sur le principe que nous sommes persuadés qu'il aurait voulu établir sa résidence dans la ville s'il savait qu'il était proche d'elle, pour pouvoir aller au Bet HaMidrash qui apparemment se trouvait à plus de 2000 coudées de l'endroit où il se trouvait. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu à Rabbi Yehuda, Misham Raya, peux-tu prouver de là ton opinion? Shema Belibo Haïta, peut-être qu'il avait eu l'intention d'établir sa résidence dans la ville, bien qu'il semblerait de cette histoire qu'il ne savait pas qu'il se trouvait proche d'elle. Au Bet HaMidrash, Mouvla Betor Trumo Haya, peut-être que le Bet HaMidrash se trouvait dans son territoire, c'est-à-dire se trouvait à moins de 2000 coudées de l'endroit où il se trouvait. Nous noterons que cette discussion que nous venons de voir entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda se situe dans un cas où cette personne était réveillée, donc consciente, et avait une intention d'établir sa résidence à l'endroit où il se trouvait, sans pour autant le dire clairement, voire le Meiri. Par contre, dans la Mishnah suivante, comme nous le verrons, il s'agit d'un cas où cette personne était endormie et n'était donc pas consciente pour décider d'établir sa résidence sur place. Nouvelle Mishnah, Mishéachan Baderech, celui qui s'est endormi en chemin un vendredi après-midi, Veloyada Shecha Shecha, et n'était pas consciente que la nuit est tombée, donc que le Shabbat est rentré, et par conséquent n'a pas pris de décision d'établir sa résidence sur place. Yeshlo Alpaim Amal Cholruach a un périmètre d'un rayon de 2000 coudées de chaque côté, à partir de l'endroit où il se trouve. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri, Vachachamim Omrim, En Loela Arba Amot, il n'a qu'un périmètre de 4 coudées, puisque finalement, il n'avait pris aucune décision d'établir sa résidence sur place. Nous le considérons comme étant une personne sans lieu de résidence, il n'a donc qu'un périmètre de 4 coudées. Rabbi Eliezer Omer, Vehu Ben Tzan, en ce qui concerne ce périmètre de 4 coudées, il est fixé de manière à ce qu'il en soit au milieu, autrement dit, il a un rayon de 2 coudées de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, le Ezeruach Shirtze Eler, il peut aller de n'importe quel côté, autrement dit, il peut choisir le sens de ce périmètre, et c'est dans ce sens qu'il sera fixé. Au modèle Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda est cependant d'accord, chez Imbirerlo, s'il a choisi une direction pour ce périmètre de 4 coudées, chez Eno Yachol Arzorbo, qu'il ne peut pas changer d'avis, et décider que son périmètre serait dans une autre direction. Hayu Shnaim, s'ils étaient deux à être astreints à un périmètre de 4 coudées, ils étaient situés de manière à ce que Miktsat Amotav Shelze Betor Hamotav Shelze, qu'une partie du périmètre de l'un chevauchait sur une partie du périmètre de l'autre, c'est-à-dire par exemple, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, ils étaient distants de 6 coudées, et ils avaient décidé tous les deux que leur périmètre respectif serait en direction de l'autre. Ainsi, leur périmètre se chevauche sur une largeur de 2 coudées. Mais bi'in ve'ochlin ba'emtsa, ils peuvent amener chacun leur nourriture et manger au milieu, donc manger ensemble et même échanger leur nourriture.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Memhe Amudbet, ou Bilvad Shelo Yotzize Mitor Shelo, le Tor Shel Chavero, mais à la condition qu'il fasse chacun attention de ne pas sortir des objets qui lui appartiennent de son territoire pour les mettre dans le territoire de son camarade. Et cela, parce que les objets d'une personne sont astreints au périmètre de leur propriétaire. Par conséquent, si le propriétaire est astreint à un périmètre de 4 coudées, ces objets le sont aussi. En plus, il sera même interdit de faire sortir de son périmètre un objet qui ne lui appartient pas. Car contrairement au périmètre de 2000 coudées, le périmètre de 4 coudées est considéré comme étant un domaine privé duquel il est interdit de faire sortir n'importe quel objet. Tandis que lorsqu'il s'agit du périmètre de 2000 coudées, celui-ci n'est pas considéré comme étant un domaine privé. Et comme nous l'avons vu au début du chapitre, notre seul souci est le risque qu'il franchisse la limite de son territoire, mais lorsqu'il n'y a pas ce risque, il peut même lancer un objet qui ne lui appartient pas vers l'extérieur de son territoire ou ramener un objet vers lui, voire le marcha. Hayushlosha, s'il y avait trois personnes astreintes à un périmètre de quatre coudées, et ils étaient situés de manière à ce que Vahemtsaï Mouvla Benehem, à ce que le périmètre de celui du milieu était inclus dans le périmètre des deux autres, c'est-à-dire dans le cas où les deux personnes situées à l'extérieur étaient distantes de 8 coudées, et chacune de ces deux personnes avait décidé que son périmètre serait en direction de l'autre, et le troisième du milieu était situé exactement au milieu, et il avait décidé que son périmètre serait de manière à ce qu'il soit situé au milieu de celui-ci. Il avait donc deux coudées de chaque côté. Il se trouve donc que la moitié de son périmètre chevauche la moitié du périmètre de celui de droite et l'autre moitié chevauche la moitié de celui de gauche. Hu mutar imahen, lui a le droit de traiter séparément avec chacune des deux personnes qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire il peut s'asseoir avec la personne de droite tout en faisant attention de ne pas franchir son périmètre et même d'échanger avec lui de la nourriture, en faisant attention de ne pas faire sortir de nourriture ou d'ustensiles du périmètre de son propriétaire, puis il peut s'asseoir avec celui de gauche et traiter avec lui de la même manière, tout en prenant les mêmes précautions, behen mutarinimo, et eux ont le droit de traiter avec lui, donc aussi de rentrer dans son territoire jusqu'à la limite de leur périmètre, et d'échanger de la nourriture ou des ustensiles en prenant les mêmes précautions, ou shnaim hachitsonim asurim zeimze, mais les deux de l'extérieur sont interdits, c'est-à-dire n'ont pas le droit de traiter l'un avec l'autre, car finalement leur territoire ne se chevauche pas, comme nous l'avons expliqué. Amar Rabbi Shimon, le Mahadabardome, à quoi ce cas ressemble? Il ressemble à les Shalosh Hatserot Haptuchot Zulazu, à trois cours intérieures qui se trouvent côte à côte et qui ont chacune une porte communicante avec l'autre, ou Ptuchot Lirshut Harabim, et elles sont à la fois aussi ouvertes à la voie publique, c'est-à-dire elles ont chacune une sortie à part à la voie publique et n'ont aucun droit de passage sur l'autre. Par conséquent, chacune de ces cours est un domaine en soi. Les habitants d'une des cours n'ont pas le pouvoir d'interdire de porter dans l'autre cour. Cependant, puisqu'il existe une porte communicante, ils ont le pouvoir de s'associer par le moyen d'un hérouv et de porter d'une cour à l'autre.
Nous sommes Masechet Hérouvim, Daf Memhe Amudbet, à la sixième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah que s'il y a deux personnes astreintes à un périmètre de quatre coudées qui sont proches l'une de l'autre de manière à ce qu'une partie des périmètres se chevauchent, ils peuvent se joindre au milieu dans la partie commune, mais ils devront faire attention de ne pas sortir des objets ou de la nourriture du périmètre de leur propriétaire. Selon le même principe, s'il y a trois personnes astreintes à un périmètre de quatre coudées proches l'une de l'autre, de manière à ce que les périmètres des deux personnes extérieures ne se chevauchent pas, mais le périmètre de la personne du milieu est à cheval sur les deux périmètres, c'est-à-dire la moitié de son périmètre chevauche une partie de celui de droite et l'autre moitié chevauche une partie de celui de gauche. Alors, la personne du milieu pourra se rendre et se joindre avec celui de gauche, par exemple, dans leur partie commune, puis se joindre avec celui de droite dans leur partie commune. Ils devront toutefois faire attention, comme nous l'avons dit précédemment, de ne pas faire sortir d'objets ou de nourriture du périmètre de leur propriétaire. Mais les deux personnes extérieures n'auront pas le droit de se joindre parce que leur périmètre ne se chevauche pas. Rabbi Shimon veut comparer cette situation à un cas de trois cours côte à côte qui ont chacune une ouverture à la voie publique, mais ils ont aussi une porte commune par le moyen de laquelle les habitants d'une des cours peuvent passer à l'autre cour. Nous noterons que dans cette situation, puisqu'aucune des cours n'a un droit de passage sur l'autre, elles peuvent chacune faire un hérouv séparé. Les habitants d'une cour n'interdisent pas de porter dans l'autre cour. Cependant, puisqu'il existe une porte commune, ils peuvent faire un hérouv entre elles pour pouvoir porter d'une cour à l'autre. Alors Rabbi Shimon continue à exposer son cas. Irvu shtaim im haemtsait. Si les deux cours extérieures ont fait un hérouv commun séparé avec la cour du milieu, et celle de gauche a aussi fait un Hérouv commun avec celle du milieu. Cependant, les deux cours extérieures ne se sont pas associées par un Hérouv. En là-dessus, Rabbi Shimon dit, « Hi muteret imahen, les habitants de la cour du milieu ont le droit de porter leurs objets vers une des cours de l'extérieur, soit de droite, soit de gauche. « Vehen mutarot imah, et les habitants des cours extérieures ont le droit de porter leurs objets vers la cour du milieu. « Ushtaim hachitsonot asurot zuimzu, mais les habitants des cours extérieures sont interdits les uns avec les autres. » Autrement dit, il est interdit de porter de la cour de droite à la cour de gauche et vice-versa. Il faudra donc faire attention que leurs objets ne se mélangent pas dans la cour du milieu et que par erreur, un objet provenant de la cour de droite arrive à la cour de gauche ou vice-versa. Cependant, les Chachamim interdisent, la Gemara expliquera. Nous avons vu au début de la Mishnah une discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim concernant le cas d'une personne qui s'est endormi un vendredi après-midi alors qu'il était en chemin. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, il a établi sa résidence sur place, même s'il n'avait pas l'intention de le faire, parce qu'il n'était pas conscient, tandis que selon les Chachamim, puisque justement il n'était pas conscient, nous considérons qu'il n'a pas du tout établi de résidence, il est donc astreint à un périmètre de 4 coudées. En la Gemara demande, Ba'e Rava, Rava s'est posé la question suivante, Maïka Savar Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri pense lorsqu'il dit que même une personne qui n'était pas consciente à l'entrée du Shabbat a quand même établi sa résidence sur place et a un périmètre de 2000 coudées dans lequel il peut circuler librement? Misbar Kasavar pense-t-il que Heftze Hefker Konim Shvita, que des objets qui n'ont pas de propriétaire sont considérés comme ayant établi une résidence à l'endroit où ils se trouvent, il est interdit donc de les déplacer en dehors d'un périmètre de 2000 coudées de l'endroit où il se trouve à l'entrée du Shabbat. Et c'est pour cela que même la personne qui n'était pas consciente à l'entrée du Shabbat a établi sa résidence sur place, au même titre qu'un objet sans propriétaire. Ou bedinhu deliflog bekelim. Et en fait, leur discussion aurait dû être rédigée à propos d'ustensiles sans propriétaire. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, il est interdit de les déplacer hors d'un rayon de 2000 coudées de l'endroit où il se trouve. Tandis que selon les Chachamim, un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence. Par conséquent, ils ne seront astreints à un territoire que lorsqu'une personne en prendra possession. Ils seront donc astreints au territoire de la première personne qui en a pris possession. Et la raison pour laquelle leur discussion a été rédigée à propos d'un homme qui était endormi, donc il n'était pas conscient à l'entrée du Shabbat. Lehodiacha Kohan Derabanan, c'est pour te montrer la force de l'opinion des Chachamim, selon laquelle, sans intention particulière, la résidence du Shabbat n'est pas établie, et ce, même lorsqu'il s'agit d'un homme. De'af al-gav di'ika le'memar, bien que dans le cas de l'homme, on aurait pu dire Ho'il vene'or kana, puisque s'il était réveillé, et il n'a pas eu d'intention particulière d'établir sa résidence, nous considérons quand même qu'il a établi sa résidence et peut circuler à partir de l'endroit où il se trouve dans un rayon de 2000 coudées, Yashen Namikana, même lorsqu'il dort aussi, nous pouvons considérer qu'il a établi sa résidence et qu'il peut circuler dans un rayon de 2000 coudées autour de l'endroit où il se trouvait à l'entrée du Shabbat. Kamash Malandelo, c'est pour cela que les Chachamim nous ont fait entendre que non, c'est-à-dire qu'ils ont précisé qu'ils maintiennent leur opinion, même lorsqu'il s'agit d'un homme, et s'il n'était pas conscient à l'entrée du Shabbat, il n'a pas établi sa résidence, il est donc astreint à un périmètre de 4 coudées. Odilma, ou bien, Kassavar Rabbi Yochanan ben Nouri be'alma. Peut-être que Rabbi Yochanan ben Nouri pense en général, Heftze Hefker en Kolin Shvita, que des objets sans propriétaire n'établissent pas de résidence, et ne sont astreints à un territoire que lorsqu'une personne en a pris possession. Et donc, ces objets seront astreints au territoire de la première personne qui les a trouvés. Vehacha haynutama, et ici, voici la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Nouri pense que la personne qui était endormie, donc qui n'était pas consciente à l'entrée du Shabbat, a établi sa résidence sur place. C'est parce que Ho'il veneokana, parce que s'il était réveillé, même s'il n'a pas eu d'intention particulière, nous considérons qu'il a établi sa résidence sur place. Yashen namikana, s'il était endormi à l'entrée du Shabbat, nous considérons aussi qu'il a établi sa résidence sur place. Finalement, ce que la Gemara cherche donc à savoir, est-ce qu'il existe un avis qui serait donc celui de Rabbi Yochanan ben Nouri, selon lequel un objet sans propriétaire établit sa résidence sur place, et il est donc interdit de le sortir d'un rayon de 2000 coudées de l'endroit où il se trouve, indépendamment du territoire de la personne qui l'a trouvé, ou bien il n'existe pas d'avis pareil.
L'Agma répond, Amar Rav Yosef, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. La braïta dit, Gshamim sheyardu me'erev Yom Tov, de la pluie qui est tombée la veille de Yom Tov, Yesh lahen alpaim ama lechol ruach, cette eau pourra être transportée dans un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où elle a été recueillie. Nous noterons que cette braïta parle de Yom Tov, car pendant Yom Tov, il est permis de porter sans restriction. La braïta dit donc que cette eau pourra être transportée dans un rayon de 2000 coudées. Une personne ne pourra donc pas la transporter en dehors de ce rayon de 2000 coudées, même à l'aide d'un hérouv qu'il aura fait avant Yom Tov. Yom Tov, mais si cette pluie est tombée pendant Yom Tov, Harehen Kiragle Koladam, cette eau de pluie aura le statut de n'importe quel homme qui en aura pris possession pendant Yom Tov. Et ce, parce que comme nous le verrons par la suite, cette eau n'avait pas été recueillie avant Yom Tov, nous ne pouvons donc pas considérer qu'elle a établi une résidence avant Yom Tov, elle aura donc le statut de la personne qui en a pris possession pendant Yom Tov. Autrement dit, cette eau ne pourra être transportée que dans le territoire de la personne qui en a pris possession pendant Yom Tov. Voir le Ritva et le Marsha sur Tosfot Dibura Matril Liknu. La Gemara demande « I amart bishlama kasavar Rabbi Yochanan ben Nouri chefze hefker konim shvita » On comprend bien cette braïta si tu dis que Rabbi Yochanan pense que des objets sans propriétaire établissent une résidence et ne peuvent être déplacés que dans un rayon de 2000 coudées de l'endroit où ils se trouvent. Hamane, nous pouvons dire que l'auteur de cette braïta, Rabbi Yochanan hi, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est pour cela qu'en ce qui concerne l'eau de pluie tombée avant Yom Tov, celle-ci ne pourra être déplacée que dans un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où elle a été recueillie. Et là, Yamar Treftsev Ker en Kolim Shvita. Mais si tu dis que même Rabbi Yochanan ben Nouri pense que des objets sans propriétaire n'acquièrent pas de résidence, autrement dit, ils peuvent être déplacés librement, car nous ne considérons pas qu'ils établissent une résidence avant l'entrée du Shabbat ou de Yom Tov, Hamane, quel est l'auteur de cette braïta? Lo Rabbi Yochanan velo Rabbanan. L'auteur de cette braïta ne pourrait être ni Rabbi Yochanan ben Nouri, ni les Chachamim qui sont en désaccord avec lui, car selon eux, cette eau de pluie qui est tombée avant Yom Tov devrait pouvoir être déplacée dans le territoire de la personne qui en a pris possession pendant Yom Tov, comme nous l'avons expliqué précédemment. Yativ Abaye vekamar la lehashmata. Abaye était assis et récitait cet enseignement. Amar le Rav Safra le Abaye. Rav Safra a posé la question à Abaye. Vedilma bekshamim hasmuchim leir askinan. Peut-être que cette braïta parle d'eau de pluie qui est tombée proche d'une ville. Ve'anche otahir datam ilayhu. Et les habitants de cette ville ont eu l'intention d'en prendre possession. Nous pouvons donc considérer que cette eau de pluie a établi sa résidence sur place pour ne pouvoir être déplacée que dans un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où elle a été recueillie. Mais effectivement, si cette eau de pluie avait été recueillie dans une zone déserte, il se peut que, même selon Rabbi Yochanan ben Nouri, cette eau de pluie n'a pas établi de résidence et elle pourra être déplacée dans le territoire de la personne qui en a pris possession pendant Yom Tov, sans tenir compte de l'endroit où cette eau de pluie a été recueillie. Amarle, Abaye lui a répondu, Lo Salkada Atar, il ne peut pas te venir à l'idée une chose pareille, que selon Rabbi Yochanan ben Nouri, un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence. Detnan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Betza, Daf Lamed Tet. Bor Shel Yachid, un puits appartenant à un particulier, Keragle Yachid, peut être déplacé uniquement dans le territoire de ce particulier, Veshel Otahir, et un puits appartenant à une ville, Keragle Otahir, pourra être déplacé dans tout le territoire où les habitants de la ville peuvent circuler normalement. C'est-à-dire, si une partie des habitants de la ville ont fait un hérouv pour se déplacer dans un sens, ils ne pourront porter cette eau que dans le territoire où les autres habitants de la ville peuvent circuler. Veshel Ole Bavel, et un puits appartenant, ou plutôt destiné à l'usage des pèlerins venant de Bavel, Kiragle Hamemale aura le statut d'une personne qui en puise. C'est-à-dire, nous considérons que cette eau n'appartient à personne, elle aura donc le statut de la personne qui en prend possession pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc, chaque personne qui en puise pourra déplacer cette eau dans son territoire, et même s'il la donne à quelqu'un d'autre, celle-ci ne pourra être déplacée que dans le territoire de la personne qui en a pris possession auparavant. En tout cas, nous voyons clairement dans cette braïta qu'un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence avant l'entrée du Shabbat. Vetania, il est enseigné dans une autre braïta, Bor Shel Shvatim, un puits appartenant aux tribus, c'est-à-dire un puits appartenant au public en général, sans qu'il y ait de propriétaire particulier. Celui-ci est d'ailleurs destiné à l'usage des pèlerins. Yesh Lahen Alpaim Amal Chol Ruach ont un territoire de 2000 coudées. Dans cette braïta, nous voyons qu'un objet sans propriétaire établit sa résidence à l'entrée du Shabbat et ne peut être déplacé que dans un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où il se trouve. Kashyan Ahadadeh. La Mishnah et la braïta se contredisent. Et la Lav Shma Amina, n'est-ce pas? Tu devras donc déduire de là. Ha Rabbi Yochanan Ben Nouri. Celle-ci, c'est-à-dire la braïta, suit l'opinion de Rabbi Yochanan Ben Nouri, qui pense donc qu'un objet sans propriétaire établit la résidence avant Shabbat Yom Tov. Ha Rabbanan, tandis que la Mishnah suit l'opinion des Chachamim, selon laquelle un objet sans propriétaire n'établit pas de résidence et peut être déplacé dans le territoire de la personne qui en a pris possession, indépendamment de l'endroit où cet objet se trouvait à l'entrée du Shabbat. Forcément, nous devons conclure que le point de discussion entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et les Chachamim est à savoir, est-ce qu'un objet sans propriétaire établit sa résidence à l'entrée du Shabbat ou non? Qui a tal kameh de Rav Yosef, lorsqu'Abaye s'est présenté devant Rav Yosef, Amarle, il lui a dit, Hachi kamar Rav Safra, c'est cela que Rav Safra m'a dit pour réfuter notre preuve de la première braïta, Behachi arderele, et c'est cela que je lui ai répondu, c'est-à-dire, je lui ai prouvé d'ailleurs qu'il existe une discussion entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et les Chachamim, à savoir, est-ce qu'un objet sans propriétaire établit sa résidence avant le Shabbat? Amarle, Rabbi Yosef lui a répondu, Vamai lotemaleh megufa, pourquoi n'as-tu pas prouvé cela de la braïta elle-même? Car is al kadatar geshamim asmuchim la'ir askinan, car s'il te venait à l'esprit que la première braïta parle de pluie qui est tombée proche d'une ville, et c'est pour cela que nous considérons que cette eau de pluie a établi sa résidence, car les habitants de la ville ont eu l'intention de s'en servir. Hay yesh lahen alpaim amal chol ruach, est-ce ainsi que la braïta aurait dû dire lorsqu'elle dit que cette eau peut être déplacée dans un rayon de 2000 coudées, à partir de l'endroit où elle a été recueillie? Ce n'est pas cela que la braïta aurait dû dire. Ha keragle anche ota irmibaele. Plutôt, la braïta aurait dû dire que cette eau a le statut des habitants de cette ville, et cette eau peut donc être déplacée dans tout le territoire habituel des habitants de la ville. C'est-à-dire, si nous considérons que les habitants de la ville ont pris possession de cette eau, et c'est pour cela que nous considérons qu'elle a établi sa résidence, on devrait considérer qu'elle a établi sa résidence dans la ville pour pouvoir être déplacée dans un rayon de 2000 coudées autour de la ville, indépendamment de l'endroit où cette eau a été recueillie. Forcément, si la braïta parle d'un rayon de 2000 coudées à partir de l'endroit où cette eau a été recueillie, c'est parce qu'elle considère qu'un objet sans propriétaire a établi sa résidence sur place, et ce serait donc cela l'opinion de Rabbi Yochanan Ben Nouri. Amarma, la Gemara reprend le passage de la braïta que nous avons vu plus haut. Be Yom Tov, si la pluie est tombée pendant Yom Tov, Harehen Keragle Koladam, cette eau aura le statut de tout homme qui en aura pris possession. Autrement dit, cette eau de pluie n'a pas établi de résidence avant Yom Tov, par conséquent, elle aura le statut de la personne qui en aura pris possession pendant Yom Tov, et elle pourra être déplacée donc dans son territoire, indépendamment de l'endroit où elle a été recueillie. Alors la Gemara demande, Vahamai, pourquoi nous considérons que l'eau de pluie tombée pendant Yom Tov n'a pas établi sa résidence avant Yom Tov, l'Ikne Shvita Bokianus? On devrait considérer que cette eau a établi sa résidence dans l'océan avant de s'évaporer pour former des nuages. Finalement, puisque cette eau est sortie de son territoire de 2000 coudées autour de l'endroit où elle se trouvait à l'entrée du Yom Tov, il devrait être interdit de la déplacer en dehors d'un périmètre de 4 coudées. L'Ema de l'eau Karbiliezer, dira-t-on que cette braïta ne suit pas l'opinion de Rabbi Eliezer? Des i Karbiliezer, car si elle suivait l'opinion de Rabbi Eliezer, Ha'amar, voici qu'il dit, kol ha'olam kulo mime okianus hushote, que tout le monde boit de l'océan. Autrement dit, toute la pluie qui tombe provient de l'océan par évaporation. Dira-t-on que notre braïta ne suit pas l'opinion de Rabbi Eliezer et pense que l'eau de pluie vient d'ailleurs, par exemple, directement du ciel? La Gemara répond, Amar Rabbi Tzrak, Hacha be'avim shenitkashu me'erev yom tov askinan. Ici, dans notre braïta, il s'agit d'un cas où les nuages se sont formés avant Yom Tov. Par conséquent, cette eau de pluie n'a pas établi sa résidence dans l'océan. La Gemara demande, Vedilma Hanach Hazle, peut-être que les nuages qui se sont formés avant Yom Tov sont partis, Vehanach Acharineninu, et ces nuages, ce sont des autres provenant de l'océan par évaporation pendant Yom Tov. La Gemara répond, De Itlehu Simana Begavayu, ici il s'agit d'un cas où il a un signe dans ces nuages, c'est-à-dire il les reconnaît que ce sont ceux qui se sont formés avant Yom Tov. Par conséquent, cette eau de pluie n'a pas établi sa résidence dans l'océan, et puisque cette pluie est tombée pendant Yom Tov, cette eau aura le statut de la personne qui l'a trouvée, comme nous l'avons expliqué précédemment. Viba Itema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Même s'il ne s'agit pas d'un cas où il reconnaît ses nuages, Havé Safek de Divrehem, il s'agit d'une situation d'un doute concernant une halakha midérabanan, c'est-à-dire nous ne savons pas si ce sont ces nuages qui se sont formés avant Yom Tov ou ce sont de nouveaux nuages. Mais ça fait que des divrehem, les akel, et lorsqu'il y a un doute concernant une halakha midérabanan, nous sommes plus indulgents et cette eau de pluie sera permise. Elle pourra être déplacée dans le territoire de la personne qui en a pris possession. On la Gemara demande, velikne shvita be'avim, cette eau de pluie devrait établir sa résidence dans les nuages. Finalement, puisque cette eau de pluie a parcouru une distance de plus de 2000 coudées, il devrait être interdit de la déplacer hors d'un périmètre de 4 coudées. Tifshot mina, on devrait donc prouver de là, de entrumin le malamiyud, qu'il n'y a pas d'interdiction de parcourir une distance de plus de 2000 coudées à plus de 10 tfachim de hauteur. De i yesh trumin, car s'il y avait une interdiction de parcourir plus de 2000 coudées lorsque on se trouve à plus de 10 tfachim du sol, likne shvita be'avim, on devrait considérer que cette eau de pluie a établi sa résidence dans les nuages. L'agma répond, le olam et malecha yesh trumin, toujours pourrais-je te dire qu'il y a une interdiction de parcourir une distance de plus de 2000 coudées lorsqu'on se trouve à plus de 10 tfachim du sol. Cependant, en ce qui concerne l'eau de pluie, c'est différent parce que umaya be'iva mivla blié, l'eau est pour ainsi dire avalée dans les nuages. Autrement dit, nous considérons qu'elle est inexistante. Nous ne pouvons donc pas considérer que l'eau a établi sa résidence dans les nuages.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.